France Inter.
Alexis Morel, bonjour.
Bonjour Mathilde, bonjour à tous. Cela faisait 2 mois à peine que la France en était sortie. Le plan Vigipirate retrouve son niveau le plus élevé. Urgence attentat après les attaques terroristes de Moscou. On verra comment le gouvernement justifie cette décision. Ce matin, des policiers vont surveiller les entrées de collèges et lycées des Hauts-de-France suite aux menaces reçues ces derniers jours. Dans ce journal, nous serons aussi au Sénégal. Les partisans de l'opposant Faye sont convaincus de sa victoire au lendemain de la présidentielle. Aux États-Unis, Trump face à une échéance judiciaire et financière et direction Saint-Nazaire pour tester un silencieux des maires contre les nuisances sonores des chantiers d'éoliennes.
France Inter. 137 morts, 182 blessés, c'est le dernier bilan de l'attentat près de Moscou vendredi soir.
Les 4 suspects arrêtés quelques heures après l'attaque sont partis hier soir en détention provisoire. Au moins l'un d'entre eux est originaire du Tadjikistan, selon la justice russe, qui jusque-là se bornait à parler d'étrangers. Pour Washington, aucun doute, le groupe État islamique porte bien seul la responsabilité. Il n'y a aucune implication ukrainienne, disent les États-Unis, contrairement à ce que sous-entend Vladimir Poutine à Moscou. En France, l'exécutif décide donc en réaction de rehausser à nouveau le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, urgence attentat. Décision prise hier soir à l'issue d'un conseil de défense autour du président, Laurine Bengebria.
Ce seuil entraîne la mobilisation de milliers de militaires et la mise en place de mesures exceptionnelles. Par exemple, les contrôles d'accès des personnes et véhicules peuvent être renforcés dans les bâtiments publics, des lieux de culte peuvent faire l'objet d'une surveillance renforcée et dans les établissements scolaires, il peut y avoir un contrôle des sacs. Ce niveau permet aussi de diffuser des messages d'alerte par SMS ou via la radio et la télévision. Le gouvernement annonce donc renforcer son plan Vigipirate après l'attentat à Moscou. Le Premier ministre Gabriel Attal évoque aussi les menaces qui pèsent sur la France. Une réunion doit avoir lieu à Matignon ce matin avec tous les services de sécurité impactés par le rehaussement du niveau de vigilance pour coordonner leur action dans les prochaines semaines. La dernière fois que ce niveau d'alerte avait été déclenché, c'était après le meurtre de Dominique Bernard à Arras. Et cela avait permis de mobiliser 7000 militaires supplémentaires pour l'opération Sentinelle.
Et dans ce contexte, collèges et lycées sous haute surveillance policière ce matin dans les Hauts-de-France, après les menaces d'attentats reçues ces derniers jours sur les ENT, les espaces numériques de travail. Les forces de l'ordre seront présentes devant certains établissements. Les ENT qui sont eux suspendus jusqu'à nouvel ordre. Menaces terroristes toujours prégnantes, alors que la justice se penche depuis près d'un mois maintenant sur l'attentat de Strasbourg. 5 morts, 11 blessés en décembre 2018 sur le marché de Noël. Un procès fleuve dans une salle de audience quasi vide, car il se tient loin de l'Alsace, ce procès. Au palais de justice de Paris, c'est la règle en matière de terrorisme, mais c'est une contrainte de taille pour les parties civiles, les victimes et leurs familles, dont les frais de déplacement ne seront remboursés que bien plus tard, Charlotte Piret.
Régine a perdu son frère dans l'attentat de Strasbourg, alors elle a tenu à assister à l'audience, 3 jours seulement sur 5 semaines, car un procès à Paris pour elle...
Oui, je trouve que c'est beaucoup plus compliqué. Ça aurait été plus simple Strasbourg, mais ils ont expliqué que c'est tous les procès terroristes ont lieu ici.
Tout seul, de l'autre côté de l'allée, un jeune homme, lui aussi endeuillé.
J'ai demandé autour de moi qui pouvait me loger sur Paris pour pouvoir venir le plus possible. Là, les publics, c'est les parties civiles, et encore, on est très peu nombreux. Mais tous les Strasbourgeois ont été blessés, et ça aurait pu intéresser un public plus large de Strasbourgeois qui a vécu l'événement sans être partie civile.
Résultat, le jeune homme en garde un sentiment.
Le même sentiment qu'on a vécu après l'attentat délaissé, où on n'a pas senti beaucoup d'aide autour de nous après l'attentat, et là, on le revit encore pendant le procès.
Un risque bien identifié par Arnaud Friedrich, avocat Strasbourg. Bourgeois d'une quinzaine de parties civiles.
Le risque, c'est l'exclusion. Le risque, c'est de ne pas être partie au procès pénal en tant que victime, mais partie prenante.
Alors l'avocat envoie des comptes rendus quotidiens à ses clients. D'autres victimes s'informent entre elles par groupe WhatsApp, à défaut de pouvoir être présentes dans la salle d'audience.
Les agriculteurs de la FNSEA de retour aujourd'hui à Matignon pour une nouvelle rencontre, on ne les compte plus, avec Gabriel Attal. À la veille de son congrès annuel, le premier syndicat agricole demande au chef du gouvernement d'accélérer la mise en œuvre des promesses faites ces dernières semaines avec un calendrier précis.
Au Sénégal, incertitude ce matin sur l'issue du premier tour de la présidentielle.
Les résultats officiels ne seront pas connus avant plusieurs jours. Les premières tendances semblent donner l'avantage à l'opposant anti-système, Bassirou Diomaye Faye. Mais en face, autour du candidat du pouvoir, Amadou Ba, on assure qu'un second tour sera nécessaire pour les départager. Ce qui n'empêche pas les partisans de l'opposition de crier déjà victoire, comme dans leur fief de Ziguinchor, la grande ville du Sud. Reportage RFI, Charlotte Idrac.
Chants, klaxonnent et vuvuzela résonnent dans les rues de Ziguinchor. Des groupes dansent au bord de la route, des motos pétaradent.
Aujourd'hui, le Sénégal ne dort pas.
Avant la publication de résultats officiels au niveau local et national, Cher Diédiou croit dur comme fer à une victoire de Bassirou Diomaye Faye.
Ah, je suis heureux. Je me sens libéré. Bon, il faut être prudent, mais je pense que non, c'est bon, c'est clair. Ici à Ziguinchor, d'abord, c'était plié d'avant. Comme on a tendance à le dire, il n'y a pas marche.
La candidature du maire de Ziguinchor n'avait pas été validée. Il avait donc choisi son fidèle lieutenant comme plan B. Diomaye, c'est Sonko, c'est Diomaye, ont martelé les responsables de la coalition durant la campagne. Une bonne stratégie, selon Ismaïla Sagna.
Ousmane Sonko a eu vraiment l'intelligence de préparer un second. Et vraiment, si Bassirou Diomaye accède au pouvoir, ce projet va porter le Sénégal dans la voie du développement.
Pour Youssouf Afal, Bassirou Diomaye Faye représente un espoir.
Qu'est-ce que vous attendez comme principal changement?
L'emploi des jeunes surtout, ça nous manque vraiment ici. On a eu notre bague, on est là, on fait rien, on conduit des motos Jakarta. Et donc on attend vraiment que si Diomaye Faye vient, que les jeunes puissent travailler.
Dans un communiqué publié tard hier soir, le directoire de campagne d'Amadou Ba, candidat du pouvoir, appelle à respecter les prérogatives des différentes institutions chargées du recensement et de la proclamation des résultats. Charlotte Idrac, Ziguinchor, RFI.
Le chef de l'ONU, toujours plus inquiet de ce qui se passe à Gaza. On dirait presque que les quatre cavaliers de l'apocalypse galopent sur l'enclave, a dit hier Antonio Guterres, en appelant Israël à lever les derniers obstacles à l'aide humanitaire dans un territoire en proie à la famine. Mais ce matin, l'UNRWA, l'agence des Nations Unies en charge de cette aide à Gaza, annonce avoir désormais l'interdiction formelle de l'armée israélienne d'envoyer des convois vers le nord de l'enclave. Aux États-Unis, c'est aujourd'hui la date limite pour Donald Trump. Il doit d'ici minuit prouver à la justice américaine qu'il dispose bien d'un demi-milliard de dollars pour payer ses amendes pour fraude financière. Loïc Lory, vous êtes à New York pour Inter. Si le milliardaire ne fournit pas cette caution, il risque la saisie d'une partie de son patrimoine.
Jeudi dernier, le New York Post affirmait que Donald Trump envisageait de ne rien faire et de laisser la justice s'emparer de la Trump Tower. En réalité, difficile de savoir ce qui attend l'homme d'affaires, jusque-là incapable de rassembler ses près de 500 millions de dollars de caution. Première hypothèse, improbable, l'ex-président signe un chèque ou obtient un prêt, mais une trentaine de sociétés spécialisées lui auraient déjà dit non selon ses avocats. Deuxième hypothèse, la justice va dans le sens de son appel et réduit la somme à payer, voire le dispense carrément de mettre la main à la poche. Dans le cas contraire, la saisie d'une partie de ses biens pourrait immédiatement débuter. Le plus simple consistant à geler ses comptes bancaires avant la confiscation beaucoup plus compliquée de son patrimoine immobilier. L'image de Donald Trump en serait en tout cas ternie, celle d'un milliardaire pas aussi riche qu'il le prétend. New York, Loïc Loury, France Inter.
Il est 6h08, la pollution sonore, c'est aussi sous l'eau.
Oui, même en pleine mer, il règne aujourd'hui un boucan d'enfer à cause des multiples activités humaines, avec un impact considérable sur la faune marine. Et c'est un enjeu autour des éoliennes offshore qui poussent au large de nos côtes. Pour réduire ce bruit, une star Startup vient de présenter à Saint-Nazaire un silencieux des mers qui permet donc d'atténuer les nuisances sonores autour des chantiers à plus de 90%. C'est le reportage d'Hélène Roussel, France Bleu Loire-Océan.
Avant de partir sur site, petite démonstration sonore. Ça, c'est le bruit habituel sous l'eau.
Voilà un bateau qui arrive.
Qui empêche les animaux marins de communiquer entre eux, gênant mais pas mortel, contrairement à un battage de pieux par un marteau hydraulique.
Le bruit, c'est une vibration. Sauf que l'eau est un milieu incompressé, donc elle va aller 4 fois plus vite que dans l'air.
Damien Demour, président fondateur de Greenov.
Et elle va aller aussi beaucoup plus loin. C'est-à-dire que si je suis à Brest, que je mets de la musique dans l'eau et que vous êtes à New York, là vous allez m'entendre.
Alors les ingénieurs ont travaillé avec un seul but, comment confiner le bruit sous l'eau. Ils ont imaginé comme une immense chaussette qui vient entourer le pieux.
Un grand cylindre avec une structure métallique en dessous.
Comme un gros panier à salade.
Ouais, c'est ça, avec des lignes d'alimentation d'air pour pouvoir venir gonfler les paddles. Ça
ça vient casser les ondes sonores.
Traduction avec le grand patron.
On met de l'air dans l'eau, donc un changement de vitesse de propagation du son entre l'eau et l'air. Et alors là, c'est un phénomène physique, va créer une efficacité acoustique.
Sur le port, le test se termine.
Les treuils se mettent en marche et donc les panneaux ensuite se replient automatiquement dans cette structure.
Ça fait 5 ans qu'on travaille pour pouvoir faire ce prototype. Donc pour nous, c'est vraiment un moment exceptionnel. Je pense qu'effectivement, c'est aussi un moment important pour la filière.
Le système taille XXL servira d'ici 2 ans pour les monopieux des éoliennes au large de Dunkerque.
Et puis un peu moins de 3 900 000 euros pour la lutte contre le sida. Bilan du SIDAction ce week-end, c'est à peu près le même montant de promesses de dons que l'an dernier. Mais il reste possible de donner jusqu'au 12 avril en appelant le 110.
Alexis Morel est maintenant un esprit sport qui voit double. Bonjour Cédric Guillou.
Bonjour Mathilde.
Le tennis de table est décidément une histoire de famille en ce moment.
Oui, c'est incroyable Mathilde. Le tennis de table de haut niveau, en tout cas en ce moment en France. 2 membres de la même famille qui se retrouvent en finale des matchs de simple lors des championnats de France. Les frères Lebrun, évidemment, on en parle beaucoup avec Alexis qui a triomphé de son petit frère Félix en finale. Mais la famille Lutz était aussi à la fête chez les filles avec Camille Lutz qui a battu sa petite sœur Charlotte en finale.
Et ça, c'était attendu que les sœurs Lutz se retrouvent en finale ?
Alors, elles ne font pas partie des meilleures mondiales, mais elles sont quand même dans le top 5 des joueuses françaises. Elles sont originaires d'Orfelden. C'est un petit village situé à une 30aine de kilomètres de Strasbourg. Elles ont commencé là-bas d'ailleurs sous l'impulsion de leur maman qui avait un bon niveau régional. Leurs routes se sont séparées depuis. Camille, elle a 21 ans, elle est licenciée à Saint-Denis. Et Charlotte, 18 ans, est toujours en Alsace à Schiltigheim. Et comme les frères Lebrun, Mathilde, eh bien elle déteste s'affronter en compétition. D'ailleurs, Camille a eu ce mot pour sa sœur après la finale d'hier au micro du speaker de ces championnats.
C'est très très dur parce que en même temps je suis hyper contente pour moi mais je suis terriblement triste pour ma sœur. Je suis sûre qu'elle gagnera ce titre un jour ou l'autre.
Et est-ce qu'on va les retrouver aux Jeux Olympiques de Paris ?
Pas les deux, ça on en est sûr Mathilde, pas les deux parce qu'il ne reste qu'un seul billet pour les Jeux parce qu'on a déjà 2 pongistes femmes qualifiées, Pietrika Pavade et puis Jeannan Yuan, déjà désignées par la Fédération Française de Tennis de Table grâce à leur bon classement mondial. Les 2 sœurs Lutz ont en fait jusqu'au 18 juin pour arracher leur sélection olympique.
Alors que les frères Lebrun, eux, sont déjà qualifiés.
Absolument.
Tous les deux. Merci Cédric Guillou pour cet esprit sport.